Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse votre divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes au chapitre 12 de Saint Matthieu, donc sur le fichier, c'est le troisième fichier, le fichier Saint Matthieu chapitre 11 à 15, à la page 8. Nous commençons par expliquer, en suivant toujours Saint Thomas d'Aquin et les Pères de l'Église, nous expliquons les 8 premiers versets d'abord. En ce temps-là, Jésus passait le long des blés un jour de sabbat, et ses disciples ayant faim se mirent à arracher des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voici que vos disciples font ce qui n'est pas permis de faire au jour de sabbat. Mais il leur dit : N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui mais aux prêtres seuls. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que les prêtres au jour de sabbat violent le sabbat dans le temple et ne sont pas coupables? Or je vous le dis, il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie cette parole, je veux la miséricorde et non le sacrifice, vous n'auriez jamais condamné des innocents. Car le Fils de l'homme et maître même du sabbat. Donc nous allons expliquer à partir des pères ces versets. Donc vous avez, encore une fois, pour ceux qui me suivent sur internet, toujours plus facile d'avoir le polycopier imprimé. Bon, je lis tout ce qui est sur le polycopier pour ceux qui n'ont pas le polycopier sous les yeux, mais c'est quand même plus facile de travailler pour vous si vous avez le polycopier sous les yeux. Donc, les pères de l'Église interprètent de façon symbolique, de façon allégorique, ce champ de blé, les jours de sabbat, traversés par les disciples et notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi mangent-ils les épis? Pourquoi qu'est-ce que cela représente? Donc, les pères expliquent que le champ représente, que traversent les disciples, c'est le monde apostolique. Le sabbat, c'est le repos. La moisson, le progrès de ceux qui doivent embrasser la foi et s'avancer vers la maturité. Donc, cette entrée dans le champ le jour du sabbat, c'est l'avènement du Seigneur dans le monde, lorsque la loi était comme frappée d'inactivité. Cette fin, c'est le désir qu'il avait du salut des hommes. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a planté du grain dans le champ, le champ de l'Église, donc le champ apostolique de l'Église, le champ dans lequel les apôtres sont envoyés, les prêtres sont envoyés pour missionner dans ce champ, et ils doivent vérifier que le grain a bien poussé, que les ennemis n'ont pas envahi le champ, que les herbes folles n'ont pas envahi le champ, que les insectes ne sont pas là pour manger le blé, etc. Et donc, en fonction du soin que le paysan, l'agriculteur va donner à son champ, l'apostolat sera plus ou moins grand. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, qu'il fallait prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Rappelez-vous, c'était aussi l'évangile de dimanche dernier, donc le quatrième dimanche après l'épiphanie, c'était l'évangile de la zizanie, de l'ivraie qui est mélangée au blé dans le champ. C'est exactement la même idée, c'est-à-dire l'ivraie qui est plantée dans le champ de nuit par l'ennemi du propriétaire du champ, représente évidemment le démon qui vient essayer de troubler les bons résultats que Dieu essaye de voir dans nos âmes. Le chant représente pas simplement le chant de l'Église, mais aussi le chant individuel de chaque personne dans l'Église, à savoir le chant de son âme. Et donc, les apôtres vont attendre la maturité du blé, donc doivent vérifier que, en craquant, si vous voulez, l'épi sous leurs doigts, de vérifier que le blé est mûr. Donc, Rabban Mor donne une belle explication. Il dit que lorsque les apôtres broient ces épis, ils dépouillent les âmes de la concupiscence de la chair. C'est-à-dire qu'on enlève. Qu'est-ce que fait l'agriculteur? Il va broyer l'épi et séparer d'une part dans sa main les grains eux-mêmes, qui vont après être mangés, être moulus pour faire de la farine, faire du pain, et tout le reste, la paille, va être jetée au loin, enlevée par le vent. Donc, broyer ces épis, ça veut dire broyer l'âme pour la purifier des concupiscences de la chair. Concupiscence de la chair, c'est comme l'ennemi, le démon, qui met dans l'âme les trois concupiscences. C'est la livrée qui est mélangée au bon grain. Donc, ils cueillent des épis lorsqu'ils attachent les hommes au désir de la terre. Ils broient ces épis lorsqu'ils dépouillent les âmes de la concupiscence de la chair. Ils mangent les grains lorsqu'ils incorporent à l'Église les âmes qu'ils viennent de purifier. C'est-à-dire que le grain est imparfait, l'épi est imparfait parce qu'il y a des choses dans l'épi qui ne se mangent pas. Donc, on sépare les choses mangeables, à savoir le grain qui est mûr maintenant, et la paille, le reste de l'épi qui est jeté au feu, ça n'a aucune valeur pour être mangé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les apôtres donc séparent le bon du mauvais. Hein? Comme notre Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé, il viendrait à la fin des temps pour séparer les bons des mauvais. Les bons pour les prendre dans son royaume, dans son grenier, et les mauvais pour les envoyer au loin en enfer. De même, une autre image que notre Seigneur Jésus-Christ prend dans l'Évangile, le pêcheur qui a ramené du poisson, donc il va faire une séparation entre les bons poissons qu'il va mettre dans des vases séparés et les mauvais poissons qu'il va rejeter à la mer ou détruire parce qu'ils n'ont aucune valeur. Donc, lorsque les apôtres séparent la paille du bon grain, ils font ça, en faisant ça, ils incorporent à l'Église les âmes qu'ils viennent de purifier. Donc cette purification du grain, pour que le grain soit propre, représente la purification des âmes qui est nécessaire avant que le fruit spirituel, à savoir les âmes en état de grâce, puisse être recueilli par le maître de la moisson, notre Seigneur Jésus-Christ, et déposé dans son grenier. Donc ceux, disent les pères, qui trouvent leur délice dans la méditation des Écritures, marchent le long des blés avec le Seigneur. Ils ont faim parce qu'ils ont le désir de trouver le pain de vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ils arrachent les épis et les broient lorsqu'ils discutent les témoignages de l'Écriture pour y trouver ce qui est caché sous la lettre, et ils font cela le jour du sabbat alors qu'ils sont plus libres des pensées tumultueuses du monde. Donc cette purification est nécessaire pour chacun d'entre nous. On ne peut pas rester en état de grâce sans être purifié. Je me suis trompé, c'est l'évangile de la zizanie, attendez, c'est l'évangile de dimanche prochain, excusez-moi. C'est le cinquième dimanche après l'épiphanie qui propose cet évangile de la zizanie. D'après saint Augustin, personne ne peut faire partie du corps du Christ s'il n'est pas dépouillé de ses vêtements charnels. Oui, on retrouve la même idée. Il faut se purifier. Hein? Il faut purifiés. En mangeant les grains, on incorpore à l'Église les âmes qui viennent d'être purifiées par la séparation entre le bon grain et la paille. Et saint Augustin répète la même chose. Personne ne peut faire partie du corps du Christ s'il ne s'est dépouillé de ses vêtements charnels. Donc, la paille qui est envoyée au feu, qui est envoyée dans le vent pour qu'elle soit complètement séparée et que le bon grain soit purifié, cette paille représente l'enveloppe charnelle. Si vous voulez. Notre âme est comme un épi de blé. Donc, une enveloppe charnelle qui n'est pas très importante et au contraire, un fruit spirituel qui est la charité qui vit dans notre âme, qui, elle, est importante. Et ce qui intéresse notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fruit spirituel qui est caché dans l'âme. C'est ce que dit saint Paul, bien souvent, « Dépouillez-vous du vieil homme ». Donc les apôtres font cette action le jour du sabbat, c'est-à-dire dans l'espérance du repos éternel auquel ils invitent tous les hommes. Donc saint Hilaire, saint Ambroise, saint Bède le Vénérable, donc allégoriquement, appliquent ce texte de l'évangile, des apôtres qui passent avec Jésus le long des blés, le jour du sabbat. Ils pensent que ce texte explique que les apôtres passent du premier sabbat, le temps de l'évangile, au deuxième. Après la semence mise en terre et la prédication, ils vont maintenant moissonner les grains qui représentent les élus de toutes les nations pour nourrir la foi et la piété jusqu'au temps où ils pourront les placer dans la grange céleste. Donc il y a tout ce travail de purification et ne peut être engrangé dans les greniers célestes que le bon grain, que les bons grains. Vous avez aussi un beau texte aussi de saint Bède le Vénérable, un texte qui explique le sens tropologique du texte de l'Évangile. Donc tropologique, c'est le sens moral. Ceux qui marchent avec le Seigneur à travers les champs de blé aiment méditer sur les oracles sacrés. Ils ont faim quand ils désirent trouver le pain de vie et sont heureux de se reposer le jour du sabbat avec un esprit libre de toute pensée troublante. Ils frottent les épis et les purifient de la paille pour atteindre le grain. Quand ils acceptent le témoignage des Écritures, les méditant jusqu'à ce qu'ils trouvent la moelle de l'amour. Ce rafraîchissement de l'esprit ne plaît pas aux fous, mais est approuvé par Dieu. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas ces choses-là sont comme les vierges folles. Donc, ils sont obligés d'aller rechercher de nuit de l'huile pour alimenter leur lampe, et l'époux vient pendant qu'elles ne sont pas là, et pénètre dans la salle du festin, la salle la salle nuptiale, simplement avec les vierges sages. Les vierges folles sont gardées au loin parce qu'elles ne vont pas rentrer à temps, qu'elles vont trouver la porte fermée lorsqu'elles reviennent. Donc, vous voyez, ici même, saint Bède reprend exactement la même idée. Frotter les épis, c'est purifier. C'est une purification pour atteindre le grain. Par ces 12 pains de propositions dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, qui étaient gardés sur la table de propositions, les pains sacrés, qui n'étaient pas encore la Sainte Eucharistie, mais qui représentaient déjà en partie la Sainte Eucharistie, qui étaient mangés par les prêtres. Et bien, par ces 12 pains, les 12 tribus d'Israël confessent qu'elles ont continuellement été nourries par Dieu. C'est pourquoi les encens, car l'encens rappelle que ces pains ont appartenu à Dieu et lui était offert lors de la messe chantée, la messe solennelle, avec encens. Le prêtre encense les oblats à l'offertoire. Ce n'est pas encore la Sainte Eucharistie, puisque les paroles de la consécration n'ont pas encore été prononcées, pas encore. Et le prêtre, avec le diacre et le sous-diacre, donc, vont encenser l'autel, mais avant d'encenser l'autel, ils vont encenser les oblats. Ils ont encensé le pain sur la patène et encensé le vin dans le calice. En retour, Dieu, qui voit la satisfaction signifiée par l'oblation de ses 12 pains, rend manifeste qu'il aimera toujours les 12 tribus et les gardera devant sa face continuellement. Dieu aime d'un amour tout particulier tous ses enfants. Et même ses enfants d'Ancien Testament, même son peuple élu qui a refusé sa divine présence et qui a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu les aime toujours, attention. Bon. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église catholique, mais Dieu va aussi donner des grâces pour que ces personnes-là puissent se convertir et espérons qu'avant la fin du monde, ils puissent regagner le véritable troupeau pour qu'un jour il y ait, comme dit notre Seigneur, un seul troupeau et un seul pasteur. Conclusion, le monde se repose et est soutenu par trois choses, la loi, c'est la justice, l'adoration divine et la miséricorde. Voilà comment les pères expliquent donc ce passage qui est très beau, des apôtres qui vont dans le champ de blé pour séparer dans leur main, en broyant l'épi, séparer le bon grain de la paille, exactement comme le maître de la moisson, avant l'arrivée de la moisson, au moment de la moisson, va séparer le bon grain de l'ivraie. Passons maintenant au verset 9 à 13. Étant parti de là, page 9 dans le polycopie, il vint dans leur synagogue. Et voici qu'il se trouva là un homme qui avait une main desséchée. Et il interrogeait en disant, a-t-il permis de guérir au jour de sabbat, afin de pouvoir l'accuser? Et il leur dit, quel est l'homme d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la prendra pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors voyons l'explication donnée par les pères de cette main desséchée. Bon, là, on va voir le symbole du nouvel Adam qui vient prendre sur ses épaules les péchés du premier Adam. Et donc l'arbre de la croix qui prend la place de l'arbre du paradis terrestre qui a fourni le fruit de la désobéissance. Expliquons un petit peu à partir des pères. Dans le sens mystique, après le retour des champs où les apôtres avaient cueilli les fruits de la moisson, Jésus vient dans la synagogue pour y préparer l'œuvre d'une nouvelle moisson. Car plusieurs de ceux qui furent guéris se joignirent plus tard aux apôtres. La première moisson, si vous voulez, c'était la moisson de l'Ancien Testament. Deuxième moisson, c'est la moisson du Nouveau Testament. Et la troisième moisson sera la moisson à la fin des temps. Saint Jérôme explique en disant que jusqu'à l'avènement du Dieu Sauveur, la main dans la synagogue des Juifs demeura desséchée, incapable des œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que les Juifs ne voulaient pas accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc leur main, symbole des bonnes œuvres, va devenir desséchée. Une main desséchée ne peut plus faire de bonnes œuvres du tout. Mais lorsque notre Seigneur fut venu sur la terre, les apôtres rendirent l'usage de cette main droite à ceux qui embrassèrent la foi et recouvra la même forme, force d'action qu'auparavant. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa venue sur la terre, après son incarnation, dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie, bien notre Seigneur Jésus-Christ va prendre cette main desséchée de l'Ancien Testament et va en faire de nouveau une main valide. Toute guérison se fait par la parole et la main redevient semblable à l'autre, c'est-à-dire qu'elle devient propre au ministère du salut comme celle des apôtres. Aussi, le Seigneur apprend-il aux pharisiens à ne pas voir avec peine l'œuvre du salut des hommes confiée aux apôtres, puisqu'en eux-mêmes, s'ils veulent croire, ils deviendront dignes du même ministère. Donc notre Seigneur Jésus-Christ explique là directement que tous les Juifs de l'Ancien Testament sont invités à venir participer à la table du banquet céleste, du banquet spirituel du Nouveau Testament. N'oublions pas que tous les premières personnes qui ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ étaient tous des Juifs. Notre Madame était juive de race, tous les apôtres étaient juifs de race, bon, sauf Saint Paul. Saint Paul n'était pas un hébraïque, si vous voulez. C'était un Romain. Bon, mais il avait reçu une éducation juive très soigneuse à l'école de Gamaliel. Alors là, il y a un texte important, c'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras, un texte de Rabban Mor, un père de l'Église. Cet homme dont la main est desséchée, c'est le genre humain, en Adam, qui est devenu complètement stérile en bonnes œuvres pour avoir étendu vers le fruit défendu cette main qui a guéri une autre main innocente étendue sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne prendrez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Trompé par le démon, trompé par les quatre mensonges du démon, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, et ainsi vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Adam et Ève, d'abord Ève, puis Adam, ont tendu la main vers l'arbre interdit du fruit de l'arbre, le fruit interdit pardon de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et cette main s'est desséchée. Saint Paul de la mort spirituelle qui est encourue par eux parce que justement ils ont désobéi. Le fruit de la désobéissance, c'est la mort spirituelle. Et donc leur main est toute desséchée. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va venir et va guérir cette stérilité d'Adam et Ève et de ceux qui sont venus après eux, et il va tendre à ce moment-là, lui en tant que nouvel Adam, il va tendre sa main vers le fruit de l'arbre de la croix. Donc on passe d'un arbre desséché qui donne la mort à un arbre de vie qui donne la vie. Donc Adam est devenu complètement stérile en bonnes œuvres pour avoir étendu vers le fruit défendu cette main qui a guéri notre main innocente étendue sur la croix. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a les mains étendues. Il est crucifié à droite, crucifié à gauche par deux clous. Et il est crucifié et étant crucifié, il étend ses mains. Et par cette main tendue, si vous voulez, ceux qui ont accepté de prendre cette main tendue en s'approchant de notre Seigneur Jésus-Christ, s'approchant de sa croix, vont guérir la stérilité qui venait du fait de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc le nouvel Adam va prendre sur lui la désobéissance de l'ancien Adam et rétablir la justice. Par la justice de la croix, il va rétablir l'amitié qui existe entre notre Seigneur Jésus-Christ et ses créatures. C'est donc dans la synagogue que se trouve cette main desséchée. Donc la main desséchée représente le peuple juif incapable de faire des bonnes œuvres. Parce que la science, lorsqu'elle est départie avec abondance, expose à des fautes plus graves et sans excuses. Jésus commande d'étendre cette main desséchée qu'il veut guérir, car l'infirmité d'une âme ne peut être guérie par un remède plus efficace que par d'abondantes aumônes. Oui, donc on voit très bien ici comment les pères de l'Église, ils disent presque tous la même chose sur ce sujet-là, expliquent que la main desséchée du peuple juif va devenir la main guérie du Nouveau Testament. Donc, encore une fois, l'idée est très belle. Donc, Adam et Ève qui tendent la main vers le fruit défendu, à cause de l'interdiction de notre Seigneur Jésus-Christ, perdent l'usage de cette main. Mais lorsque, après, le peuple juif converti se retrouve au pied de la croix et tend la main vers la croix, cette fois-ci, ils vont être vivifiés par la croix qui va donner une nouvelle vie à cette main qui était desséché dans le passé, qui va retrouver l'usage de la vie physique et de la vie spirituelle par le contact avec la croix. Rappelez-vous que lorsque Sainte Hélène, IVe siècle, avait retrouvé la croix, elle trouvait les trois croix, on ne savait pas, elle avait fait faire des fouilles à Jérusalem pour tenter de retrouver la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne savait pas où était la vraie, parce qu'il y avait trois croix qui étaient ensemble. Il y avait la croix des Dolarons et la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'évêque de Jérusalem. L'évêque de Jérusalem qui a eu l'idée d'aller chercher une vieille femme qui était complètement impotente, une grabataire, et deux soldats ont pris la femme et l'ont posée successivement sur les trois croix et sur celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été immédiatement guérie. Pour bien montrer que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ amène la vie spirituelle. Cet homme, donc, avait la main desséchée parce qu'elle était comme engourdie pour les œuvres de la charité. Engourdie pour les œuvres de la charité, ça veut dire que ce dessèchement de la main qui était desséchée à cause de son acte de désobéissance, eh bien, rendait cette main incapable des bonnes œuvres, et surtout des œuvres de charité. Au contraire, lorsque la main retrouve sa santé spirituelle, elle va de nouveau être capable de servir ses intérêts, et la main droite devenant saine comme la gauche, va pouvoir participer aux œuvres de charité. Elle va pouvoir distribuer par un instrument un sentiment de charité, ce qu'elle avait amassé au début par un esprit d'avarice. Saint Jérôme explique les choses allégoriquement. jusqu'à la venue du Sauveur, la main des Juifs s'est desséchée dans la synagogue, car les œuvres de Dieu n'y étaient pas faites. Mais après cette venue, la main droite des chrétiens redevint valide, restaurée par les apôtres, enfin prête pour les premiers travaux. Et c'est pour cela que, au cours de la cérémonie d'extrême-onction, lorsqu'on extrémise un malade, le prêtre va soigneusement faire une croix avec l'huile des infirmes sur les mains pour rattraper tous les péchés commis avec les mains. N'oubliez pas que l'extrême onction n'efface pas le péché. Elle efface les peines temporelles des péchés, c'est-à-dire les peines du purgatoire connectées aux péchés déjà pardonnés. C'est un sacrement des vivants, attention. L'extrême onction est un sacrement des vivants parce que c'est un sacrement qu'on ne peut recevoir que lorsque notre âme est vivante, en état de grâce. Donc, par, si vous voulez, le contact avec la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la maladie va disparaître, la paralysie va disparaître, la mort spirituelle va disparaître, et va être introduite à ce moment-là, au pied de la croix, la vie spirituelle retrouvée. Saint Anselme, anthropologiquement, donc au sens moral, la main desséchée doit être guérie pour avoir été étendue. Pour pouvoir être étendu, car la faiblesse d'une âme sans fruit ne peut pas être guérie d'une plus noble manière que par la libéralité de l'aumône. Notre sainte main, si vous voulez, qui se tend vers la croix, cette main devenue saine, représente aussi la vertu de charité, c'est-à-dire l'aumône. N'oublions pas les choses très importantes chez les anciens, cette aumône, la pratique de du jeûne et la prière. Et l'aumône avait toujours été considéré dans l'Église comme un moyen de lutter contre la concupiscence des yeux, hein, c'est-à-dire le désir de tout posséder. C'est donc l'aumône qui va permettre de pratiquer la vertu, l'esprit évangélique de pauvreté. Après cette venue, donc la main droite des chrétiens redevint valide, restaurée par les apôtres, enfin prête pour les premiers travaux. Et donc, tout ça est synthétisé par cette belle phrase des pères de l'Église. Cet homme dont la main est desséchée, c'est le genre humain en Adam qui est devenu complètement stérile en bonnes œuvres pour avoir étendu vers le fruit défendu cette main qui a guéri une autre main innocente étendue sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ, en étendant ses bras sur la croix, en acceptant d'être crucifié à droite et à gauche par ses mains sur le bois de la croix, rattrape tous les péchés par lesquels les hommes ont essayé d'utiliser leurs membres supérieurs, leurs mains, pour s'approprier des choses auxquelles ils n'avaient pas le droit. Donc la main, dit saint Anselme, est desséchée et doit être guéri pour pouvoir être étendu, car la faiblesse d'une âme sans fruit ne peut pas être guérie d'une plus noble manière que par la libéralité de l'aumône. Donc l'aumône, justement, je viens de vous le dire, représente cette lutte contre la concupiscence des yeux, ce désir de tout avoir. Saint Jean-Baptiste conseillait, disent les pères, aux multitudes qui lui demandaient ce qu'elle devait faire pour ne pas devenir comme des fruits secs jetés dans le feu. Il a conseillé de faire une chose, que celui qui a deux manteaux en donne un à celui qui n'en a pas, et que celui qui a la nourriture fasse de même. En vain, un homme étend-il ses mains vers Dieu pour demander la rémission de ses péchés, s'il n'étend pas les mêmes mains pour faire l'aumône à un pauvre homme qui le lui demande. C'est évident que si je me présente à l'autel, mais que j'ai la rancune contre mon frère, ou que je refuse d'ouvrir les entrailles de ma miséricorde aux pauvres à l'entrée de l'église, à la porte de l'église par exemple, eh bien, je ne peux pas exiger évidemment du bon Dieu qu'il pardonne mes péchés, puisque je ne suis pas capable de faire la charité. Le pauvre représente notre Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas. Nous avançons vers page 10 du Polycopier, Saint Matthieu, chapitre 12, versets 14 à 21. Les pharisiens étant sortis, tinrent conseil contre lui sur les moyens de le perdre. Mais Dieu, Attendez, j'ai perdu ma ligne. Mais Jésus, le sachant, s'éloigna de là, et beaucoup le suivirent, et il les guérit tous. Et il leur ordonna de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a mis toutes ses complaisances. Je ferai reposer sur lui mon esprit, il annoncera la justice aux nations. Il ne disputera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les places publiques. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait amené le triomphe de la justice, et les nations espéreront en son nom. Essayons d'expliquer avec les pères de l'Église ce texte un peu compliqué. C'est toujours la même chose, c'est toujours un texte un peu compliqué. Il faut que l'exégète, la personne qui étudie le sens de l'Écriture sainte, je dirais, oublie complètement toute interprétation personnelle. Malheur aux catholiques qui veulent donner une interprétation personnelle à un verset de l'Écriture sainte. Ça, c'est le libre examen protestant. On ne veut pas de ça dans l'Église catholique. Bon, au contraire, comme Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croie, c'est que je diminue, donc on s'efface complètement derrière le témoignage des pères. Quand vous avez un passage de l'Écriture sainte, le protestant dit, voyons comment je peux comprendre ce texte. Devant le même texte, un catholique va dire, voyons comment les pères de l'Église ont compris de par le passé ce texte, et comment moi, aujourd'hui, en 2018, je peux et je dois me soumettre à cette interprétation des pères de l'Église pour penser avec l'Église, sentire cum ecclesia, sentir avec l'Église. Donc, évidemment, j'ai expliqué ça souvent, la première condition pour pouvoir faire cela, c'est l'humilité. Si je suis plein de moi-même, plein d'orgueil, comment voulez-vous que je puisse faire quoi que ce soit pour ramener mon esprit à l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ? Souvent, les gens me posent cette question devant un passage d'évangile. Monsieur l'abbé, que pensez-vous de ce passage? Et je réponds toujours la même chose. Je n'en pense rien du tout. Parce que ce que je pense sur ce passage de l'Écriture sainte n'a aucune importance, ni pour moi, ni pour vous. Par contre, ce qui me préoccupe, c'est de savoir ce que l'Église catholique a pensé, pense et pensera toujours sur ce passage de l'Écriture sainte. Donc, allons voir ceux qui ont cette interprétation officielle de l'Église, les pères de l'Église. Les pères de l'Église sont ceux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte que seuls les pères de l'Église ont. C'est pour ça que de ce côté-là, on peut vraiment considérer saint Thomas d'Aquin pratiquement comme un père de l'Église, bien qu'il soit beaucoup plus tardif. Premier père de l'Église, bon, c'est 2e, 3e siècle, et saint Thomas d'Aquin, c'est 13e siècle. Mais comme saint Thomas d'Aquin n'écrit rien avec des idées personnelles, il se contente de répéter dans son exégèse, c'est très lisible dans le livre sur la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, que j'ai beaucoup travaillé sur ce livre pour pouvoir préparer ses cours, eh bien, on voit très bien dans le texte de saint Thomas d'Aquin qui suit chaque verset de l'Écriture sainte des évangiles, après chaque verset, eh bien, saint Thomas d'Aquin se cache complètement derrière les pères. Pourtant, il avait une autorité énorme. Non! Ce qu'il a à dire sur la question ne l'intéresse pas. Il se soumet par avance au père et va citer de mémoire les pères de l'Église. Et on voit par exemple, après certains textes de l'Écriture sainte, c'est saint Thomas qui les explique dans la chaîne d'or, il y aura saint Augustin, deux points, ouvrez les guillemets, telle citation qui explique tel verset, après saint Jérôme, deux points, ouvrez les guillemets, telle citation qui explique le même verset, après saint Bède le Vénérable, deux points, ouvrez les guillemets, etc. Et lorsqu'il a terminé ses citations, verset suivant, on passe au verset suivant. Vous voyez, donc saint Thomas d'Aquin, ça qui est extraordinaire avec saint Thomas, ne fait à horreur de la nouveauté. Les catholiques doivent avoir une haine, littéralement, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais je sais ce que je dis, une haine farouche pour tout esprit de nouveauté, surtout en matière d'exégèse. On va dire de morale aussi d'ailleurs. On n'a rien de nouveau, on fait ce que l'Église a toujours fait. Alors voyons un petit peu Et l'explication donnée par les pères pour ces versets 14 à 21 du chapitre 12 de Saint Matthieu, page 10 sur le polycopie. Celui qui ne tend pas la main au pécheur et qui ne porte point le fardeau dont son frère est chargé achève de briser le roseau cassé. Et celui qui méprise la plus petite étincelle de foi dans le dernier des croyants éteint la mèche qui fume encore. C'est le verset 20. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait amené le triomphe de l'injustice. Donc, comment traduire un petit peu cet état d'esprit en disant avec le proverbe « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Rappelez-vous Saint Curé d'Ars qui disait à cette maman, à cette épouse qui était en pleurs à l'église d'Ars parce que son mari s'était suicidé en lui disant « ne vous inquiétez pas, gardez la confiance, gardez l'espérance, gardez la joie parce que entre le pont et l'eau, son mari qui s'était suicidé en sautant du pont de la Guillotière à Lyon avec une grosse pierre autour de son cou, entre le pont et l'eau, la très sainte Vierge Marie a obtenu pour votre mari la grâce d'une contrition parfaite. Donc, il ne faut point éteindre cette petite étincelle de foi dans le dernier des croyants, ni éteindre la mèche qui fume encore. Vous voyez, tant que la mèche fume encore, il y a de l'espoir. Et comme si vous voulez un feu, on a l'impression qu'il est éteint, les braises sont recouvertes de cendres grises. On met la main au-dessus, où il n'y a pratiquement plus aucune chaleur, ou très très peu. Pourtant, sous les cendres, il y a encore quelques braises qui sont rougies. Et ces braises rouges représentent la vie, en quelque sorte, qui peut repartir, rejaillir à partir de ce feu. Et il suffit de souffler d'enlever la cendre, souffler sur ces braises toutes rouges, et mettre des petites brindilles, la paille juste à côté, des petites brindilles bien sèches, et le feu va rejaillir. Donc, il ne faut pas mépriser, c'est ce que disent ici les pères, mépriser la plus petite étincelle de foi dans le dernier des croyants, même si c'est des gens qui apparemment ont tout envoyé promener. Souvent, il reste encore quelque chose. Souvent, il reste encore un petit peu de foi. Il reste encore quelques petites braises cachées sous la cendre, mais qui sont en fait encore rouges de la chaleur intérieure. Il ne voulait donc point ni briser ni éteindre les Juifs, ses persécuteurs, comparés ici au roseau brisé, parce qu'ils n'avaient plus leur intégrité et la mèche qui fume, parce qu'ils avaient perdu la lumière. Cependant, il leur ordonne, car ils n'étaient pas encore venus pour les juger, mais pour être jugés par eux. À l'occasion de cette mèche qui fume, remarquez qu'en perdant sa lumière, elle exhale une mauvaise odeur. Lorsque nous perdons la lumière de la foi catholique, la lumière de Dieu, eh bien, on n'aura plus d'odeur, la bonne odeur de nos vertus qui va être ressentie par les gens autour de nous, mais ça va être la mauvaise haleine de nos péchés, de notre gangrène spirituelle qui va être ressentie par les gens autour de nous. Parce qu'un corps pourri sur pied, ce qu'on appelle la gangrène, l'odeur est pestilentielle. À l'hôpital, on voit très bien dans certains malheureusement cas très douloureux de gens qui ont attrapé la gangrène. On est obligé d'isoler complètement ces gens dans une pièce de l'hôpital complètement calfeutrée pour empêcher l'odeur pestilentielle qui vient de cette putréfaction des chairs à cause de la gangrène. Et qui rend l'air absolument irrespirable. J'ai lu il n'y a pas très longtemps cet article dans les nouvelles qui disait que dans un avion il y avait un pauvre malheureux qui avait un problème de ce genre. Donc il avait pourtant un gros pansement sur sa gangrène. Eh bien l'odeur pestilentielle traversait quand même le pansement et les gens littéralement dans l'avion s'évanouissait à cause de cette odeur, et à tel point que le pilote a dû faire atterrir l'avion dans un aéroport intermédiaire pour que la personne malade puisse sortir de l'avion et avant de pouvoir continuer sa route. Donc il est resté, je crois, sur place, et puis il est mort d'ailleurs quelques jours plus tard. Donc il faut aussi comprendre, et c'est là un autre symbole qui est derrière, c'est que la mauvaise odeur symbolise le péché. La bonne odeur symbolise l'odeur des vertus. Il y avait des saints, entre autres saints, Philippe Néri était comme ça, qui avaient un don pour sentir le péché, sentir le caractère, le parfum, le faux parfum nauséabond du péché, si vous voulez, le faux parfum du démon. Et ils en étaient physiquement malades de respirer cette odeur du péché dans les gens à qui ils prêchaient pour les sortir justement de cette odeur du péché. Et au contraire, dès que la personne sortait du péché par une bonne confession générale, cette mauvaise odeur disparaissait, c'était la bonne odeur des vertus qui pouvait être ressentie partout. Par ce roseau qu'il n'achève pas de briser, notre Seigneur nous apprend que les nations fragiles et déjà brisées n'ont pas été broyées entièrement, mais parce qu'elles ont été réservées pour le salut, et en ajoutant, il n'atteindra pas la mèche qui fume encore, il nous montre, voilà le texte important, il nous montre que la dernière étincelle de feu n'est pas éteinte dans cette mèche qui fume encore, il nous montre que, c'est-à-dire que l'esprit, que la grâce, de la grâce ancienne n'a pas entièrement disparu du milieu des restes d'Israël parce qu'elles ont conservé, avec la faculté de faire pénitence, le pouvoir de recouvrer la lumière dans tout son éclat. Donc cette petite étincelle suffit pour refaire un grand feu et faire flamber toute la forêt. Il suffit d'une petite étincelle. Mais cette petite étincelle représente le petit troupeau de l'Ancien Testament, l'ancien peuple élu, le peuple juif, qui, avec la grâce du bon Dieu, va retrouver le sens de Dieu et pouvoir trouver la foi catholique. Mais, disent les pères, ce retour vers la foi catholique ne se fera pas sans faire pénitence. Donc, pouvoir retrouver toute la lumière de la grâce, c'est ce qu'il faut prier pour que les protestants, les musulmans et les juifs trouvent la lumière de la grâce pour leur véritable conversion. Et bien, par cette lumière de la grâce, ils vont retrouver la lumière. N'oublions pas, pour ceux qui ont fait l'exercice Saint-Ignace, ils le savent très bien, qu'un des signes par lesquels on peut reconnaître la présence du mauvais esprit dans une âme, c'est l'obscurité. Et qu'un des signes par lesquels on peut reconnaître la présence du bon esprit, notre Seigneur, dans une âme, c'est la clarté. La clarté. Donc, posons-nous cette question, est-ce que j'ai encore dans mon âme une petite lumière rouge qui brille, cette braise de la foi qui brille encore pour que je ne perde pas la foi. Quelques explications maintenant de Rabbin Mort. Ce roseau brisé, ce sont les Juifs agités par le vent et dispersés bien loin les uns des autres. Cependant, le Seigneur ne les condamne pas immédiatement, mais les supporte avec patience. Cette pêche qui fume encore serait alors le peuple formé des nations qui, après avoir éteint dans son cœur la chaleur de la loi naturelle, est enveloppé de toutes parts d'erreurs ténébreuses, semblable à une épaisse fumée qui blesse les dieux. Or, non seulement le Seigneur n'éteignit pas cette mèche fumante et ne la réduisit pas en cendres, mais au contraire, il fit jaillir de cette étincelle la flamme la plus vive et le feu le plus ardent. N'oublions pas que les apôtres sont tous des Juifs convertis. Le Christ ne va donc pas mépriser et opprimer ceux qui sont faibles dans leur foi, leur espérance et leur amour, mais les renforce et les réchauffe par sa propre douceur, bonté et patience. Donc cette petite étincelle qui fume encore représente la possibilité de conversion de gens qui apparemment sont loin de Dieu. J'ai vu, c'est une des plus grandes joies du prêtre, le nombre de gens qui ont commencé les exercices de Saint-Ignace avec moi comme des païens et qui sont sortis de la maison de retraite 5 jours après comme des chrétiens convaincus. Pas très longtemps, nous avons eu comme ça la grande grâce d'avoir un monsieur qui avait été baptisé comme enfant, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et il avait 68 ans, il ne s'était jamais confessé, jamais communié, mais il a fait sa première confession, sa première communion pendant la retraite. Et il a fait une bonne confession générale évidemment avant, et maintenant il a complètement retrouvé la foi avec la grâce du bon Dieu. Il fait des kilomètres et des kilomètres pour venir à la messe chez moi, bien que le premier dimanche de chaque mois à cause des distances, mais il fait ce qu'il peut. Donc il faut remercier le bon Dieu qui est prêt justement à nous ramener vers lui. Donc, si nous avons en nous cette mèche qui fume encore, cette petite étincelle, eh bien, il faut pas se décourager, se précipiter vers le bon Dieu. On peut prendre comme image, imaginez une petite étincelle de rien du tout qui tombe dans un vase, dans un seau qui contient de l'essence. Tout brûle immédiatement. Lumière extraordinaire, explosion, même tout brûle immédiatement, parce que cette petite étincelle qui tombe dans l'essence représente l'étincelle de l'amour du bon Dieu qui tombe sur une âme proprement préparée à le recevoir. Le Christ ne m'a donc pas méprisé et opprimé ceux qui sont faibles dans leur foi, leur espérance et leur amour, mais les renforce et les réchauffe par sa propre douceur, sa propre bonté, sa propre patience. Versets 22 à 24 du chapitre 12 de saint Matthieu. Alors on lui présenta un possédé aveugle et muet. Il le guérit, de sorte qu'il parlait et voyait. Et toutes les foules qui étaient dans l'admiration et disaient, n'était-ce pas là le fils de David ? Mais les pharisiens, entendant cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébub, prince des démons. Donc les pères de l'Église utilisaient souvent l'image représentée par ces personnes qui avaient un sens malade, en général aveugle, donc la cécité, l'absence de possibilité de voir, le mutisme, on ne pouvait plus parler, la paralysie aussi, encore d'autres exemples. Eh bien ici on présente à notre Seigneur Jésus-Christ un aveugle et un muet. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle et un muet spirituellement parlant? Un aveugle c'est quelqu'un qui ne peut plus voir la lumière du soleil, parce qu'il n'a plus de rétine, ou un problème physique qui l'empêche de voir la lumière du soleil. Eh bien, cet aveugle représente le pécheur qui ne voit plus Dieu, qui ne voit plus le chemin qu'il lui faut prendre pour retourner vers Dieu. Le muet, au contraire, c'est la personne qui n'est plus capable de parler, donc qui n'est plus capable, confessionnel, d'avouer les péchés graves qu'il a cachés peut-être pendant des années. C'est triste de voir parfois certaines personnes qui, par honte, fausse honte, vont cacher pendant des années un péché du passé, qui ne va pas sortir parfois avant plusieurs années. C'est pour ça que les confessions générales des retraites sont tellement importantes, parce que Dieu aidant, elles aident dans bien des cas, justement, des péchés passés, du passé, d'être pardonnés. Quelle malice surprenante, en bas de la page 10, dans le démon. Il avait fermé les deux passages par lesquels la foi aurait pu entrer dans cet homme, donc soit par les yeux spirituels, ou par la langue spirituelle. Mais le Seigneur va ouvrir l'un et l'autre. Nous voyons ici trois prodiges opérés dans un seul homme. L'aveugle voit, le muet parle, le possédé délivré du démon. Et ce miracle extérieur et sensible se renouvelle tous les jours dans la conversion de ceux qui embrassent la foi. Après que le démon est chassé de leur âme, ils voient la lumière de la foi et leur bouche jusqu'alors muette s'ouvre pour proclamer les louanges de Dieu. Non. L'aveugle retrouve la vue. Et immédiatement se met à suivre notre Seigneur Jésus-Christ en action de grâce. Le muet qui ne pouvait pas parler recouvre l'usage de la langue. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va tout de suite glorifier Dieu. Hein, c'est le cantique de, je ne dis pas de bêtises, le cantique de Zacharie. Hein, de Zacharie. Qui justement est un cantique d'action de grâce, qui vient de retrouver l'usage de la parole au moment où l'ange lui était apparu dans le temple. Il était grand prêtre. L'ange lui apparaît dans le temple et lui annonce la naissance de Saint Jean-Baptiste, sa femme. Eh bien, il a pas cru parce que sa femme était très âgée. Et à cause de ce doute, le bon Dieu va lui donner une punition, il va perdre l'usage de la langue, il va devenir muet. Et c'est lors de la naissance, l'annonce de l'arrivée de la Sainte Vierge, qui va venir visiter sa cousine Élisabeth, donc l'épouse de l'épouse du grand prêtre. Eh bien, c'est à ce moment-là que le lien de sa langue va être délié de nouveau, qu'il va pouvoir prononcer ce magnifique chant du Benedictus. Hein. Donc il y a cette phrase ici qui est importante. Nous voyons ici trois prodiges opérés dans un seul homme. L'âme, l'aveugle voit, donc c'est la lumière spirituelle qui envahit l'âme. Le muet parle, la parole de vérité est enseignée, et le possédé délivré du démon, et l'âme retrouve sa véritable liberté. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Alors nous en sommes à la page 11. Page 11, en haut de la page. Il convenait, en effet, après la guérison dans la synagogue de l'âme dont la main était desséchée, celui dont il est ici question devint la figure de la guérison spirituelle des nations. Et qu'après avoir été possédé du démon, aveugle et muet, il devint l'habitation de Dieu, vit et reconnut le vrai Dieu dans la personne du Christ et rendit gloire à Dieu pour les œuvres qu'il opérait. Donc saint Augustin explique les choses. Celui qui a un démon est aveugle et muet et devient l'esclave du démon qui ne comprend ni ne confesse la vraie foi et ne rend pas grâce à Dieu. Ne dit pas que les pharisiens ont dit, en parlant de notre Seigneur, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth. Donc c'est un blasphème épouvantable de considérer que le Fils de Dieu, le verbe fait chair, justement, suit le démon, est un fils du démon alors qu'il est fils de Dieu. Alors ici, il y a une phrase très importante des pères. Le démon rend donc les âmes muets pour qu'ils ne puissent plus confesser leurs péchés et d'expulser le poison dans leur âme de peur qu'ils ne louent Dieu et n'instruisent leur prochain. Mais le Christ, par sa grâce, dénoue le lien de leur bouche pour qu'ils confessent, louent et enseignent. Cette phrase, je l'ai mise en gras parce qu'elle est justement très importante. Le démon rend donc les hommes muets pour qu'ils ne puissent plus confesser leurs péchés. C'est ce qui est représenté justement par ce mutisme. On lui présenta le possédé du démon aveugle et muet. Mutisme pour qu'il ne puisse plus utiliser sa langue pour louer Dieu et accuser ses péchés. C'est deux choses très importantes que nous devons faire avec notre langue. Accuser nos péchés confessionnels et honorer, louer le bon Dieu par nos paroles. Alors vous avez en dessous, troisième paragraphe de la page 11, un magnifique texte de Saint Bernard. Saint Bernard est un grand, grand docteur de l'Église, un docteur extrêmement surnaturel, extrêmement spirituel. Pourquoi êtes-vous honteux de parler de vos péchés alors que vous ne l'avez pas été pour les faire? Pourquoi rougissez-vous de confesser à Dieu ce que vous ne pourrez jamais lui cacher? Et si vous êtes si honteux d'exposer votre péché à un homme lui-même, un pécheur, que ferez-vous donc le jour du jugement quand votre coupable conscience sera exposée à tous? Méditez cette phrase magnifique de Saint Bernard. Le bon Dieu, lorsqu'il veut nous faire commettre un péché et nous placer dans son troupeau à lui, pour que nous devenions les esclaves du démon, qu'est-ce qu'il fait le démon? Il va enlever de notre âme la honte pour qu'on puisse commettre ce péché. Puis une fois que le péché a été commis, le démon se dépêche de remettre la même honte qu'il avait enlevée auparavant sur l'âme de cette personne pour que par honte, il ne puisse plus accuser ses péchés. Donc il faut penser à tout cela lorsqu'on veut se confesser, qu'on a peut-être parfois une confession un petit peu difficile à faire pour certaines raisons, parce qu'il y a des péchés qui n'ont pas été bien accusés, parce que des péchés ont été pendant plusieurs années cachés. Ça arrive malheureusement de temps en temps, surtout pendant les retraites. C'est le grand intérêt des confessions générales de retraite, c'est que ces confessions générales justement permettent parfois à certains péchés qui ont été cachés pendant parfois 10, 15, 20, 25 ans de ressortir à la surface et enfin de recevoir l'absolution du bon Dieu. Donc n'ayons pas de fausse honte. Si vous avez un petit peu de difficulté quand vous confessez avec un péché particulier, pour une raison ou pour une autre, parce que vous n'osez vraiment pas dire celui-là, c'est pas comment le dire, eh bien, il faut prévenir le prêtre, tout simplement. Faites-le en prévenant le prêtre. Dans mon père, j'en ai un très gros à dire. Je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Aidez-moi à le sortir. Et en général, le prêtre qui connaît les âmes sait toujours quel est le péché le plus difficile à sortir pour un homme et quel est le péché le plus difficile à sortir pour une femme. Et il interroge un petit peu, en général, en quelques secondes, il va tomber sur le péché qui était caché. Saint Alphonse de Liguori, le grand prédicateur de Mission Populaire, fondateur des Rédemptoristes, il explique qu'il a vu une fois, dans une vision, il a vu un homme qui était au confessionnal avec lui, qui ne s'était pas confessé depuis de longues années. Et donc, au fur et à mesure que cet homme accusait ses péchés, il a vu, en tant que confesseur, des yeux de sa foi, des lumières divines que lui donnait le bon Dieu, il a vu à chaque fois que cet homme accusait un péché, un serpent qui sortait de la bouche de cet homme, qui tombait par terre. Et donc, à chaque nouvelle accusation, un nouveau serpent sortait de la bouche et tombait par terre. Il y a plusieurs qui sont sortis comme ça. Puis au bout d'un moment, il a vu un énorme serpent, beaucoup plus gros que les autres, qui commençait à sortir de la bouche de ce pénitent au confessionnal. Il a sorti à peu près la moitié de son corps, en se dandinant à droite et à gauche, et puis d'un seul coup, il s'arrêtait de sortir. Et il est revenu à l'intérieur de ce pauvre homme, et du coup, tous les serpents qui étaient auparavant sortis, est tombé par terre, sont tous revenus pour de nouveau envahir le cœur de cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un gros péché que cette personne n'arrivait pas à accuser à son prêtre par fausse honte. Et ça peut être un péché, ça peut être aussi une circonstance du péché. C'est quand on peut faire des mauvaises confessions, soit au niveau du nombre, soit au niveau des circonstances, soit au niveau de l'espèce du péché qui est caché. Soit au niveau de la converse, de la contrition du péché, soit au niveau de l'accusation, soit au niveau de la réparation. Et donc, il importe absolument de prier le bon Dieu. Si vous avez du mal avec une confession, donc, priez le bon Dieu. J'avoue que c'est toujours une très très grande joie pour un prêtre quand on entend un pénitent nous dire, par exemple, c'est un exemple que je donne, on trouve ça aussi, c'est Saint Alphonse, il en parle aussi, personne qui dit, voilà, le péché que je vais vous accuser maintenant, mon père, ben, ça fait 25 ans que je l'ai commis, et c'est un gros péché mortel, j'ai jamais eu le courage de le sortir, mais maintenant je vais le sortir. Et il sort ce péché. Et un péché grave. Il dit, ouais, monsieur l'abbé, j'ai commis ce péché il y a 25 ans, mais je ne l'ai jamais accusé. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, pendant 25 ans, a vécu dans le sacrilège, parce que souvent ce sont des gens, par exemple, qui se sont confessés tous les mois, qui ont communié tous les dimanches. Mais comme ils cachaient volontairement un péché vieux de 25 ans dans leur âme, eh bien leur confession était toute sacrilège et leur communion était toute sacrilège. Avec la grâce du bon Dieu, l'œuvre des exercices de Saint Ignace et la grandeur des exercices de Saint Ignace prêchés par Saint Ignace, c'est que Saint Ignace permet à ce moment-là, sans la grâce du bon Dieu, aux pénitents de refaire une bonne confession générale de toute leur vie et de vraiment pour cette fois-ci de nettoyer complètement leur âme. Ça, je conseille beaucoup à ceux qui le peuvent de s'inscrire à une de ces retraites que j'ai indiqué sur le site internet, sur la page d'accueil. Donc il y a 6 retraites, 2 sont pleines déjà. Elles sont indiquées sur la page d'accueil, donc la retraite de Pâques et la retraite de l'Ascension sont pleines. Mais les 4 autres ont encore de la place. Donc ce sont des petites retraites, c'est vraiment taillé sur mesure. Donc j'espère que tous ceux qui n'ont jamais fait la retraite, surtout, ou personnes qui ont besoin de faire la retraite, n'hésiteront pas et se battront contre le respect cubain pour venir faire une de ces retraites. N'hésitez pas à m'appeler pour ça. Versets 25 à 26. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison qui est divisée contre elle-même ne pourra subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ?» Voilà ce que disent les pères. De même que la concorde fait croître les plus petites choses, ainsi la division fait tomber les plus grandes. Et ce royaume est divisé, il s'est affaibli par cette division et il est perdu. Et s'il est perdu, comment peut-il en renverser un autre? N'oublions pas que le démon est le prince de la division. Hein. Le démon ne fait qu'une seule chose, c'est précisément de diviser les gens. Alors qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ réunit les gens. La charité unit, le péché et l'orgueil désunit, détruit l'union. Alors il faut vraiment, vraiment demander au bon Dieu toutes ces grâces dont nous avons tous besoin pour arriver à retrouver cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous la formule des francs-maçons, solver et coagula, pardon. Solver, dissoudre et reconstituer, si vous voulez. On divise pour mieux détruire, diviser pour régner. Si le démon est forcément l'auteur de cette division intestine et qu'il porte le trouble parmi les démons eux-mêmes, il faut en conclure que celui qui est parvenu à les diviser a plus de puissance que ceux qu'il a divisés. Donc le royaume du démon devient le théâtre d'une telle division. Le royaume du démon, devenu le théâtre d'une telle division, est détruit. Oui, on voit bien, c'est clair et net que dès que on tourne autour du démon, c'est l'orgueil qui envahit tout. Et c'est cet orgueil qui empêche, justement, qui rend les gens aveugles, qui rend les gens spirituellement muets pour qu'ils ne puissent plus voir la bonté du bon Dieu, pour qu'ils ne puissent plus accuser leurs péchés. Bien que les damnés et les démons brûlent avec orgueil, colère et haine les uns contre les autres, se disputant, se déchirant en enfer comme des chiens, cependant sur la terre, ils s'entendent entre eux pour pouvoir établir leur royaume et pouvoir sur... pour pouvoir établir leur royaume et leur pouvoir sur les hommes. Enfin, les deux derniers versets de cette page 11, versets 27 et 28. « Si c'est par Belzébub que je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos juges. » Et si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc au milieu de vous. Donc, on voit bien ici ce que disent les pères. On peut dire que l'affaiblissement du pouvoir du démon est une augmentation du royaume de Dieu. C'est-à-dire, plus le démon prend de pouvoir sur les âmes, moins Dieu a de pouvoir sur ces mêmes âmes. Et au contraire, plus le bon Dieu a de pouvoir sur les âmes, moins le démon a de pouvoir sur ces mêmes âmes. C'est le système des vases communicants, si vous voulez, quand ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre, vous voyez, donc faire attention à cela. Ce royaume de Dieu dont notre Seigneur parle, c'est celui où les impies subissent leur condamnation, où ils sont séparés des fidèles qui font maintenant pénitence de leurs péchés. Ces coups qui ont percé les mains et les pieds du Seigneur infligent les blessures éternelles aux démons. Et la punition de ses saints membres fut la mort des pouvoirs hostiles. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que le démon parce qu'il est Dieu. Voilà, nous allons arrêter là. Dieu aidant, la prochaine fois, nous attaquerons le verset 29, le chapitre 12. Le chapitre 12 est un chapitre assez long, il y a 50 versets. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.